Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte l'histoire de l'écrivaine Nathalie Reims, tirée de son dernier livre qui paraît chez Léo Cher, Les reins et les cœurs. À l'âge de 58 ans, Nathalie est rattrapée par un mal qui frappe toutes les femmes de sa famille depuis des générations. Une insuffisance rénale aiguë qui la condamne à être dialysée 3 fois par semaine jusqu'à sa mort. Elle est sauvée par son compagnon Flavien qui lui fait don de l'un de ses reins. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veil, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Honnêtement, je m'étais toujours voilé la face. Ma sœur n'avait cessé de m'alerter, elle m'avait incité à surveiller les signes de cette maladie génétique qui avait touché notre mère. La menace était suspendue au-dessus de nos têtes. Nous avions vu notre mère en dialyse pendant 25 ans, et ma grand-mère Alix mourir de cette maladie, et sa sœur Minka s'éteindre quelques mois plus tard, terrassée par le même mal, et leur mère à elle, qui était partie à 42 ans, et la mère de leur mère à 45. Mais toute ma vie, je me suis raconté que je n'étais pas concerné, que je n'étais pas concerné par ce gène qui s'en prend aux femmes de ma famille. Aux femmes, hein, pas aux hommes. C'était pour moi une conviction profonde, définitive, insensée. Et puis un jour, après 58 ans à détourner le regard, je me suis cogné à cette réalité. Ça commence en août 2017, en Corse, 8 jours avant la sortie de mon 19e roman, Ma vie sans moi. Depuis quelques semaines, je m'endors épuisé. Et le matin, je me réveille avec la sensation de ne pas avoir dormi. Je suis tout le temps à bout de souffle. Je manque d'air. Et puis j'ai perdu 10 kilos en un mois. J'arrive sur le tarmac de l'aéroport pour prendre l'avion pour Paris. Je dois faire 3 pauses pour gravir la passerelle. Et là j'ai un flash. Je revois ma mère monter dans le même avion, au même endroit. Je suis comme elle. Et pourtant, mon déni est plus fort que mes inquiétudes. Je me dis, c'est mon asthme. Hein, c'est mon asthme d'enfant qui revient. Un peu de Ventoline et ça ira. Le lendemain, à Paris, je réussis, je ne sais pas comment, à enregistrer une émission sur Europe 1. Et là, Léo, mon ancien mari, qui est aussi mon éditeur et avec lequel je suis resté très lié, appelle mon médecin. Quand le médecin me voit, il est stupéfait. « Tu ne vas pas bien du tout, Nathalie. Il faut faire des analyses de sang tout de suite. » La patronne du labo m'appelle, elle est affolée par les résultats. « Je suis en insuffisance rénale aiguë. Pronostic vital engagé. Tous mes rendez-vous pour la promotion de mon livre sont annulés. » Et l'attaché de presse.
« Ah, tu sais, hein, si tu annules dans quelle étagère sur France 2 ?» C'est pas sûr qu'il te réinvite, vite, hein.
Pronostic vital engagé, je t'ai dit. Alors j'ai fait des recherches sur les archives de notre dynastie pour savoir d'où venait ce gène tueur en série. Je suis remonté jusqu'à son fondateur, au début du 19e siècle, et j'ai retrouvé son testament. Il y est stipulé que les hommes doivent épouser leur cousine pour que le patrimoine, la fortune, l'argent restent dans la famille. Et depuis, ce gène se transmet de femme en femme, de génération en génération. Et maintenant, je dois être hospitalisé de toute urgence. Mon médecin traitant m'attend devant l'hôpital, l'air sombre. Je le suis au 3e étage, où m'attend un autre médecin. Il me montre ma chambre. Je m'assois sur le lit. Mon médecin me résume la situation. Nathalie, tu es en insuffisance rénale aiguë. Toutes tes fonctions vitales sont atteintes. Et moi, la seule chose qui me vient, c'est tout ce que vous voulez. Mais pas de dialyse. Et là, le médecin qui va s'occuper de moi, un grand escogriffe, prend la parole. Alors, le néphrologue qui vous prendra en charge sur la durée est en congé. Hein, il n'est pas encore rentré de vacances, et donc je le remplace. Donc nous allons, au moyen d'une perfusion, en quelque sorte vous remplir de sérum physiologique, dans le but de tenter de faire repartir les reins, et donc de lutter contre la déshydratation. Je ne suis pas certain que ça va fonctionner, mais c'est le seul moyen. Le brouillard s'est installé dans ma tête. On me pose ma perfusion. Je ferme les yeux. Ça fait 3 jours que je suis allongé, immobile, terrifié. Les poches d'hydratation continuent de remplir mon corps, goutte après goutte. On est fin août. Le grand échalas a été remplacé par un jeune, timide, qui parle si bas que je ne l'entends pas. Et en plus, il vient de prononcer le mot interdit. Il va falloir vous faire une dialyse. Et là, d'un coup, l'eau qui me remplit tout entière fait éclater mes veines. Un bras, l'autre, les mains, les chevilles, tout saute. Ma tête et mon corps explosent. Un brancard, un interminable couloir, une lumière. Mais éteignez-moi les lumières, les néons me brûlent les yeux. Madame, vous m'entendez? Vous êtes en réanimation. Et moi j'ai mal, je serre les poings. Je dois vous poser un cathéter. J'ai tellement mal, je suis tellement à bout, que je me mets à résister, à me braquer. Non, pas de tuyau, je vous en prie. Pas de dialyse, jamais. En vérité, aucun son ne sort de ma bouche, mais je suis envahi par l'image de ma mère. La dialyse, elle a fait 25 ans de dialyse. Je perds connaissance. Je tombe dans le coma. Quand je me réveille le lundi, j'ai doublé de volume. Un œdème de la tête aux pieds. J'ai peur. Et autour, une fantasmagorie cauchemardesque. Il y a des nains, des géants, des qui ont des faux cols, des chapeaux haute forme, et dans ma tête, la musique de la piste aux étoiles. Ils chuchotent, je les entends qui disent « On ne peut tout de même pas laisser mourir une femme de 58 ans. » Oui, mais si on essaye de la sauver, qu'est-ce qu'elle va encore nous faire, celle-là? Je délire. L'œdème cérébral transforme tout autour de moi. J'aperçois mon corps quand on vient me changer. Il est difforme, et je sens que l'intérieur de mes joues s'est fendu comme un ballon crevé. J'ai l'impression d'avoir été roué de coups. Qu'ai-je fait, ici-bas? J'ai écrit des livres. Qu'en restera-t-il? Probablement rien. Mais j'ai adoré ça. Une semaine de réanimation. Je ne sais plus quel jour on est. J'entr'ouvre les yeux, je cherche une passerelle, un tunnel de verre pour tenter d'apercevoir le monde dont j'ai été éjecté. Et j'assiste à des scènes que je ne peux pas comprendre puisque je n'ai plus les clés. On se dispute entre médecins. Depuis ma bulle, je me dis que je n'en ai plus pour très longtemps. Ils ont fait venir un ponte. Un professeur de l'hôpital Necker, c'est lui qui s'occupe de ma sœur, Bettina. Parce qu'elle, elle se fait suivre. Elle a le même risque que moi. Des décisions sont prises. On va arrêter la dialyse, hein, et commencer des hémofiltrations de 24 heures. Ah, donc je vais pouvoir quitter le monde parallèle et revenir sur Terre? Ce qu'on vient de commencer... Ils appellent ça une filtration. Ça paraît plus paisible, plus humain. Mais ça n'est ni plus ni moins qu'une dialyse. Ils m'ont raccordé, via un cathéter au creux de mon cou, à une machine qui me filtre comme une éponge. Le sang me quitte, il passe par le rein artificiel et il revient par le même orifice dans mes veines, nettoyé, lessivé. Impossible d'imaginer cet aller-retour si on ne l'a pas subi. Et tout ça me ramène à ma mère. Les semaines se sont écoulées. 6, 7 peut-être. Et la mort n'a pas voulu de moi. Je vais bientôt quitter l'AREA et c'est une hantise. Un kiné vient parfois pour tenter de me redresser au bord du lit. Bien. Voilà. Comme ça. Bien. Mon corps ne pèse plus rien. Il ne tient plus qu'à un souffle, tout a fondu. Je ne pèse plus que 39 kilos. Mais une force me traverse de toutes parts. Le désir d'en découdre, de flinguer ce gène, d'une balle entre les deux yeux, rompre la chaîne. Ah, ça n'est pas pour rien que je n'ai pas voulu d'enfant. Rompre la chaîne. On me transfère dans une chambre normale. Changer de chambre, d'équipe, c'est compliqué. Je me laisse porter et désormais, il n'y a pas d'autre choix. Alors, on va pratiquer 3 séances de dialyse par semaine, hein, d'une durée de 4 heures chacune, le mardi, le jeudi et le samedi matin, d'accord? Et là, on a 2 options. Soit on passe par une fistule sculptée dans votre bras, soit par un cathéter central implanté à la base de votre cou. C'est à vous de choisir. La fistule, ça consiste à réunir une veine à une artère. Et ça, c'est non. C'est mon impasse personnelle, trop de souvenirs violents, le bras de ma mère. Le cathéter, c'est plus risqué, ça s'infecte souvent et on ne peut pas se doucher comme on veut. Mais tant pis, je me laverai avec un gant. D'accord pour le cathéter. Il a fallu s'y prendre à 2 fois sous anesthésie générale pour me l'implanter. Mais j'ai réussi à échapper à la fistule. Après mon arrivée, j'aperçois le bout du tunnel. Je suis autorisé à retourner chez moi, à condition de revenir tous les 2 jours à 7 heures précises pour les dialyses. Et mon retour à la maison est à l'origine d'une nouvelle hantise. Croiser les regards de compassion. Alors je fuis autant que possible tous ceux qui me connaissent et qui m'ont vu avant.
Nathalie, je pensais que je pourrais venir te voir pour te tenir compagnie.
Non, non, c'est insurmontable. Ça ne ferait que m'affaiblir. Je veux rester concentré sur mon combat. Seule ma sœur, Bettina, est la bienvenue. Même si j'ai peur pour elle, qu'en me voyant, elle attrape elle aussi la dialyse. Qu'elle soit mordue à son tour par la bête. Elle qui a si longtemps été persuadée qu'elle serait la première de nous deux à affronter cette épreuve. Je l'ai doublée. J'ai remporté la course à la maladie génétique. Dans ma vie, il y a 2 hommes. Mon mari depuis plus de 30 ans, Léo, avec lequel je suis resté très lié, rien ne peut nous séparer, on est dépendants l'un de l'autre, il est l'autre face de moi-même. Et puis il y a Flavien, que j'ai aperçu un jour danser dans un spectacle de Mylène Farmer. Il dansait sur la chanson « Point de suture ». Vivons ensemble depuis près de 10 ans. Un jour, Flavien a entendu un des médecins évoquer la possibilité d'une greffe de rein. Il a tout de suite proposé de me donner un de ses reins, comme une évidence. Et depuis, l'idée fait son chemin dans mon subconscient. Je commence à envisager une autre vie. En attendant, je poursuis mes dialyses. Celle du mardi, dont je ne commence à me remettre que le mercredi soir, il faut alors aller se coucher tôt, car pour celle du jeudi, je me lève à 5h du matin. Et cette séance du jeudi, dont je ne me remets que le vendredi soir, et là ça recommence car le samedi, réveille à 5h. Au fond, il ne me reste qu'un seul jour de soulagement. Le lundi. Et Et si je ne faisais plus que 2 dialyses par semaine? Le lundi et le jeudi, par exemple. Ça serait le nirvana. J'en parle au médecin. Ah non, non, non. Ça serait beaucoup trop risqué. J'arrive à le convaincre d'essayer. Eh bien, 2 semaines plus tard, à 3h du matin, un œdème me renvoie aux urgences. À partir de là, la perspective d'une greffe devient dans mon esprit autre chose qu'une abstraction. Ça change tout. Voilà, professeur, une personne chère à mon cœur a proposé de me donner un rein. Sur le principe, c'est envisageable. Il faut juste vérifier la compatibilité entre vous. Et quoi qu'il en soit, il faudra vous inscrire sur la liste des demandeurs d'organes, hein, c'est la procédure. 2 jours après, je reçois un programme d'examen à passer. Mais dans ma tête, c'est le tourbillon. Recevoir un organe de l'être aimé. Mais pour moi, c'est impossible à envisager. Enfin, lui, si beau, en pleine santé, lui faire subir une telle épreuve, lui retirer un de ses 2 reins pour me le transplanter. Est-ce que, sous prétexte de vivre mieux qu'en dialyse, je peux mettre sa vie en danger ? Le rein est le seul organe qui peut faire l'objet d'un don par une personne vivante. Autrefois, la loi restreignait cette possibilité aux membres de la famille. Elle a été modifiée en 2011. Désormais, toute personne qui peut apporter la preuve d'un lien étroit et stable avec le receveur depuis au moins 2 ans peut devenir son donneur vivant. Le 29 janvier 2018 à 11h, nous avons rendez-vous, Flavien et moi, avec le professeur. Il me reçoit la première. J'ai un trac fou. Alors d'abord, il faut que je vous mette en garde, hein, concernant une transplantation. Il peut y avoir des complications, des infections, et même l'apparition d'une tumeur. Ça arrive. Et puis, il vous faudra prendre à vie un traitement immunosuppresseur, anti-rejet, à vie, j'insiste. Mais est-ce que la greffe est possible? Est-ce que Flavien et moi, nous sommes compatibles? Alors maintenant, les résultats du cross-match. Ils sont négatifs. 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 Ça veut dire que la greffe n'aura pas lieu? Ouf! Ah non, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est bon, que nos formules sanguines sont compatibles. Il nous reste à pratiquer quelques examens complémentaires. Et si tout se passe bien, on pourrait envisager la transplantation pour le printemps. Alors pour mon anniversaire, le 25 avril? Voyons, il faudrait que ça tombe un mardi ou un mercredi. Eh bien, le 25 avril, c'est un mercredi, ça tombe bien. Je pense à Flavien, cet ange descendu du ciel. J'ai la hantise de le faire déchoir. Fin mars. Deuxième rendez-vous. Le professeur va nous donner les résultats définitifs du cross-match. Nos tissus peuvent-ils se fondre dans un seul corps? Serais-je enseveli avec son organe? Une partie de lui partira-t-elle avec ma dépouille? Il n'y a rien de plus intime qu'une greffe. Bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Venez. Asseyez-vous. C'est bon. Vous êtes compatible. Vous seriez de la même famille, ça pourrait pas être mieux. Hein, l'opération est donc programmée pour le 25 avril. Et là, Flavien doit suivre une procédure juridique très précise. Il doit d'abord passer devant un comité d'experts. Et puis devant un juge du tribunal de grande instance pour y déclarer formellement son consentement à la greffe. C'est rassurant, et je suis frappé par sa détermination, par son calme, parce que chez moi c'est l'inverse. Je suis déchiré par cette échéance qui approche trop vite. Pas le temps de me forger une conviction. Le tribunal a demandé 2 témoignages de proches. Angie, qui a été témoin de notre rencontre, écrit. Il s'est immédiatement tissé entre eux une relation très forte, fusionnelle, comme celle que peuvent partager 2 âmes sœurs. Et Jérôme écrit « J'ai perçu entre Flavien et Nathalie une relation quasi-gémellaire. » Le mardi 24 avril, c'est la dernière dialyse. La veille du grand jour, Malika me débranche pour la dernière fois. Et moi, je ne cesse de me répéter. Et si rien ne marche? Si je pars en courant? Si l'un de nous deux flanche au dernier moment? Je suis à la fois mélancolique et pleine d'espoir. Effrayée et sereine. Fragile et forte. En sortant de la chambre, je tombe sur le médecin et les infirmières du service. J'éclate en sanglots. Avril 2018. Bon anniversaire. Hier, j'ai rejoint ma chambre aux soins intensifs et Flavien a intégré sa chambre dans le service des donneurs, juste à côté. Il m'envoie des messages, des photos. Je n'ai jamais rencontré un être aussi lumineux. Jamais. L'intervention doit durer 5 heures. Et si je mourais, là-bas sur la table d'opération? Je préfère rester sur la table d'opération qu'affronter le rejet du rein de Flavien. Ça serait un gâchis insurmontable. Je ne pourrais pas survivre. La porte de ma chambre s'ouvre. Ça n'est pas l'heure du verdict, c'est l'heure de l'exécution de ma peine. Les néons du couloir qui mènent au bloc. Bonjour madame. Vous pouvez me donner votre nom et votre date de naissance, s'il vous plaît. Nathalie Reims. 25 avril 1959. Bien. Votre donneur est endormi, madame. Et je vais vous envoyer le rejoindre dans les bras de Morphée. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Dès que vous dormirez, j'ouvrirai votre donneur. Quand j'ouvre les yeux, j'ai la sensation d'être passé sous un train. Comment va Flavien ? Il est retourné dans sa chambre. Il s'est réveillé bien avant moi. On me dit qu'il m'a regardé dormir comme un prince de conte de fées. Retour dans ma chambre. Les deux opérations se sont bien passées. Il aurait fallu qu'un moment de plus pour que la mort vienne. Mais une main nue est alors venue qui a pris la mienne. Louis Aragon.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.